Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez, en principe, la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite prêché avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour toute personne qui l'écoute.
Et nous allons ouvrir un cadeau extraordinaire que Dieu nous a fait, sa parole, qu'il a gardé jusqu'ici, qu'il nous donne même en français. Donc je vais vous le lire en français, n'ayez crainte. Et nous allons la lire dans trois passages. Le premier dans Hébreux au chapitre 8. Hébreux au chapitre 8. Hébreux 8. Or, voici le point capital de ce que nous disons. Nous avons un souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Il est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur, en effet, est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où la nécessité pour lui aussi d'avoir quelque chose à présenter. Or, s'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, étant donné qu'il n'y en a d'autres qui présentent des offrandes selon la loi. Ceux-ci célèbrent un culte qui est une image et une ombre des réalités célestes, ainsi que Moïse en fut divinement averti quand il allait construire le tabernacle. « Regarde, lui dit Dieu, tu feras tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Mais maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est médiateur d'une alliance meilleure, fondée sur de meilleures promesses. Si, en effet, la première alliance avait été irréprochable, il n'y aurait pas lieu d'en chercher une seconde. C'est bien, en effet, sur la forme d'un reproche que Dieu dit « Voici que les jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et la maison de Juda. » Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Puisqu'eux-mêmes n'ont pas persévéré dans mon alliance, moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Or, voici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur intelligence, je les inscrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant « Connais le Seigneur ». En effet, tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, car je leur ferai grâce de leur injustice et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En appelant nouvelle cette alliance, il a rendu ancienne la première. Or, ce qui est ancien et vieilli est sur le point de disparaître. » Et la prédication portera sur toute l'épître aux Hébreux et particulièrement sur ce chapitre 8. Et nous allons lire maintenant deux textes qui auront des éléments utiles aussi pour la compréhension. Un premier dans l'Ancien Testament, dans le livre de Josué. Josué au chapitre 24. Josué au chapitre 24, à partir du verset 14. Josué 24, 14 à 20. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Je fais une parenthèse, c'est Josué qui parle. Ôtez les dieux, conservez vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Le peuple répondit en ces termes, « Loin de nous d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait monter du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ses grands miracles et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitent ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. » Josué dit au peuple, « Vous ne pourrez pas servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera pas vos crimes et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il se retournera pour vous faire du mal et il vous exterminera après vous avoir fait du bien. Jusqu'ici, dans Josué, et nous allons maintenant encore lire un texte dans les Évangiles, dans Matthieu, au chapitre 10, les versets 34 à 39. Matthieu 10, versets 34 à 39. « Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui aura gardé sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. » Voilà, et donc je suis heureux que Clint aujourd'hui va prêcher, donc qui est membre ici de cette église, donc Clint Rolock, qui a aussi dans l'objectif, dans l'avenir, enfin travaille déjà, mais dans l'avenir aussi encore, à travailler dans la traduction de la parole de Dieu. Donc merci Clint, que Dieu te bénisse. Merci.
Dieu est un bon Père. Il offre un foyer à ses créatures, leur donne la vie et pourvoit à tous leurs besoins. Pourtant, malgré son soin omniprésent, la plupart de ses créatures s'éloignent de lui. Elles sont indifférentes à sa préoccupation paternelle. Dieu est également juste. Il exige donc de ses créatures, lorsqu'elles désobéissent, qu'elles changent d'attitude et se repentent, sous peine d'être jugées. Comme Dieu est également miséricordieux, il nous donne les moyens de nous réconcilier avec lui par l'intermédiaire de son Fils Jésus-Christ. En 1895, une jeune femme irlandaise nommée Amy Carmichael a pris la mer, quittant les rivages de sa patrie pour l'Inde. En tant que missionnaire presbytérienne irlandaise, Carmichael a passé le reste de sa vie à évangéliser l'Inde, sans jamais retourner chez elle et revoir sa famille où elle est née. En parcourant la campagne indienne, Carmichael a partagé l'évangile de Jésus-Christ. Beaucoup de ceux qu'elle rencontrait n'avaient jamais entendu parler de l'Évangile. Lorsqu'ils y ont été confrontés, un grand nombre ont répondu qu'ils préféraient passer une éternité en enfer avec leur famille biologique plutôt qu'une éternité au paradis, séparée d'elle. Leur amour pour leur famille, pour leur tribu, était tel qu'ils ne pouvaient concevoir une vie en dehors d'elle. D'une part, quel amour puissant, quelle loyauté, quel dévouement pour leur famille. Nous pouvons certainement admirer la force de l'affection de ces individus ressentis pour leur famille. Mais d'un autre côté, quelle horreur, quelle perte que leur cœur n'ait pas été apaisé par le Christ, que leur désir n'ait pas été réorienté vers Jésus-Christ, qui seul aurait été digne d'être aimé par-dessus tout. Et quelle atrocité de choisir l'enfer éternel. Aujourd'hui, je vais poser la question suivante. Quelle est la relation entre notre famille biologique et notre famille ecclésiale? Quelle ligne de démarcation l'écriture trace-t-elle dans la priorité entre les deux? Quelle différence Dieu fait-il entre le monde et son Église? En réponse à cette question, il existe deux approches différentes entre les membres de notre Église. Le point de vue officiel et qui fait partie de l'identité de l'Église est qu'il faut avoir une confession de foi crédible, qui est ensuite confirmée par l'Église, par le baptême, pour devenir membre de l'Église. L'opinion minoritaire est exceptionnelle due à l'absence d'Église presbytérienne dans la région et que ceux qui professent la vraie religion et leurs enfants sont tous membres de l'Église. Malgré cette exception, nous trouvons l'unité dans nos doctrines les plus essentielles. La personne du Christ, notre Dieu trinitaire, et son salut. Toutes ces choses nous unissent, même si nous faisons une exception pour accueillir des membres pédobaptistes. Que le Seigneur nous donne l'humilité et la grâce de raisonner charitablement les uns avec les autres, à partir de la parole de Dieu. Ce matin, nous prendrons le chapitre 8 de l'Épître aux Hébreux comme texte principal. Dans notre dernière prédication sur les Hébreux, nous avons vu comment le livre présente cette façon dont le Christ règne en maître. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la nouvelle alliance que le Christ a établie. Comme nous le verrons, l'établissement de cette nouvelle alliance redéfinit le peuple de Dieu pour l'avenir et rend l'alliance précédente l'alliance mosaïque obsolète. J'ai divisé le chapitre 8 en trois sections. Dans la première section, des versets 1 à 4, nous voyons l'administrateur céleste de la nouvelle alliance, Jésus-Christ, qui a le pouvoir et l'autorité de redéfinir le peuple de Dieu. Dans la section 2, versets 5 à 7 et versets 13, nous voyons que l'alliance mosaïque a toujours été destinée à être redéfinie et à céder la place à quelque chose de céleste, quelque chose de meilleur. Dans la section 3, versets 8 à 12, nous voyons comment Dieu en Christ a redéfini qui est son peuple. Nous voyons cette redéfinition dans la faute de l'alliance mosaïque et les meilleures promesses de la nouvelle alliance. Dans les versets 1 à 4, nous voyons l'administrateur céleste de la nouvelle alliance, Jésus, qui a le pouvoir et l'autorité de redéfinir le peuple de Dieu. Regardez avec moi dans votre Bible le chapitre 8 de l'Épître aux Hébreux, versets 1 à 4. Oh, voici le point capital de ce que nous disons. Nous avons un souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Il est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur, en effet, établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où la nécessité pour lui aussi d'avoir quelque chose à présenter. Or, s'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, étant donné qu'il y en a d'autres qui présentent des offrandes selon la loi. En ce moment même, Jésus-Christ est en haut, dans la salle du trône de Dieu le Père, où il intercède pour son peuple. Il ne s'arrête jamais, ne prend jamais de pause, ne dort jamais. Il plaide continuellement pour son Église. Il est certainement supérieur à n'importe quel prêtre humain terrestre. À l'époque où cette lettre a été écrite, les prêtres lévitiques d'Israël exerçaient encore leurs fonctions au temple de Jérusalem, sacrifiant encore des vaches et des moutons pour couvrir les péchés du peuple juif. Le temple et les synagogues des Juifs de l'époque continuaient à célébrer le culte selon la loi de Moïse. Pendant ce temps, l'Église adorait selon la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Où est ce temple aujourd'hui? Il a disparu, détruit par les Romains. Où est le système sacrificiel de la loi? Il a disparu avec le temple. Mais Jésus-Christ demeure, continuant à administrer son alliance de grâce au nom de son peuple. Quelle assurance d'avoir un grand prêtre céleste, infatigable et immortel. Nous avons un roi qui se bat pour son peuple, qui a déjà obtenu la victoire pour lui et qui se préoccupe encore de ses affaires quotidiennes. Il n'est pas un roi ou un prêtre qui reste distant, sans engagement émotionnel ou éloigné de son peuple. Non, il est proche de chacun d'entre nous. Il n'est pas limité comme un roi humain à entendre un seul demandeur à la fois. Non, en raison de son omnipotence et de son omniscience, Jésus-Christ est capable d'écouter tous ceux qui s'adressent à lui en même temps et entend toutes les prières en même temps. Il entend toutes les prières en même temps et n'est jamais débordé, jamais surchargé. En raison de sa bienveillance et de son immuabilité, il ne sera jamais insensible à nos prières. Comme l'a bien exprimé l'auteur du cantique « What a friend we have in Jesus », dont voici une traduction littérale. « Oh, quelle paix nous perdons souvent. Oh, quelle douleur inutile nous supportons. Tout cela parce que nous ne portons pas tout à Dieu dans la prière. Un grand prêtre divin unique vaut certainement mieux qu'un grand prêtre humain ou même qu'une tribu entière de prêtres humains. Venez donc à Jésus dans la prière à tout moment de détresse. Peut-être vous sentez-vous frustré après une dispute avec un membre de votre famille. Apportez-la au Seigneur dans la prière. Humiliez-vous devant votre Dieu en confessant tout péché de votre part et allez vous humilier devant le membre de votre famille. Demandez-lui pardon pour tout faux pas que vous avez commis et recherchez la paix. Vous avez peut-être été victime d'injustice par un membre de votre famille. Soumettez-le au Seigneur dans la prière. Priez au sujet de l'injustice que vous avez subie et priez pour avoir la sagesse de savoir comment aborder au mieux la question avec l'autre personne. Ensuite, parlez humblement avec l'autre personne et cherchez une solution. Laissez tomber toute amertume ou ressentiment qui aurait pu prendre racine dans votre cœur. Pardonnez-lui, chers frères et sœurs, comme le Christ vous a pardonné. Soyez unis non seulement au Christ dans une prière continuelle, mais que notre union au Christ l'emporte sur toute question de moindre importance. Même si nous avons des désaccords et que nous débattons des différences doctrinales entre nous, débattons charitablement les uns avec les autres. Nous, chrétiens, avons le même roi. C'est lui, plus que tout autre, que nous devons suivre. que la manière dont nous luttons ensemble pour la vérité démontre notre loyauté commune les uns envers les autres, face à notre famille qui nous regarde et face au monde qui nous regarde. Au verset 5 à 7 et au verset 13 de notre chapitre, nous voyons que l'alliance mosaïque a toujours été destinée à être redéfinie et à céder la place à quelque chose de céleste, de meilleur. Ceux-ci célèbrent un culte qui est une image et une ombre des réalités célestes, ainsi que Moïse en fut divinement averti quand il allait construire le tabernacle. Regarde, lui dit, Dieu fera tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est médiateur d'une alliance meilleure, fondée sur des meilleures promesses. Si en effet la première alliance avait été irréprochable, il n'y aurait pas lieu d'en rechercher une seconde. En appelant nouvelle cette alliance, il a rendu ancienne la première. Or, ce qui est ancien est vieilleux et sur le point de disparaître. Alors, pourquoi établir la loi de Moïse si elle n'était destinée qu'à céder la place à l'arrivée du Christ et de sa nouvelle alliance? Pourquoi abattre d'innombrables vaches, moutons, pigeons? Pourquoi verser leur sang pendant plus de 1000 ans si le Christ vient simplement nous donner quelque chose de mieux? Au verset 5, la réponse nous est donnée. Ceci, c'est-à-dire le sacerdoce lévitique et le système sacrificiel, célèbre un culte qui est une image et une ombre des réalités célestes. De même, il nous est dit que le tabernacle qui servait de temple provisoire avant que le temple ne puisse être construit, ce tabernacle et son mobilier étaient conformes à un modèle donné par Dieu. Dieu a donc conçu un modèle, une raison pour le système sacrificiel. Il n'était pas son but, mais intentionnel. Tout était destiné à projeter des ombres terrestres qui révéleraient une réalité céleste. Ces ombres de l'alliance mosaïque trouvent leur substance dans la nouvelle alliance, dans le royaume des cieux manifesté sur la terre par le roi Jésus. L'arrivée anticipée du Christ projette une ombre sur l'ensemble de l'Ancien Testament. De même que la justice de Dieu exigeait qu'un agneau soit sacrifié sur un autel à la place du pécheur, de même la justice de Dieu exigeait que l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, soit crucifié sur une croix à la place de chaque membre de l'Église. Remercions Dieu pour l'amour qu'il a poussé à racheter un peuple pour lui-même à un tel prix. Remerciez Dieu de nous avoir amenés à une communion d'amour avec lui. Remercions Dieu d'avoir fait entrer chaque chrétien dans son Église, non par le sang des taureaux et des moutons, mais par le sang versé de son Fils unique. Notre amour pour Dieu déborde-t-il dans nos relations mutuelles au sein de l'Église ou dans nos relations en dehors de l'Église? Le Christ veut que notre amour les uns pour les autres soit un témoignage pour le monde. Il dit dans Jean 13, 35, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Mon épouse m'a récemment dit que j'étais trop irritable, trop prompt à la colère avec nos enfants. Je disciplinais nos enfants par frustration plutôt que par amour. Pourquoi est-ce que je vous confesse mon péché publiquement? Je veux grandir dans ma vie de disciple. Je me confie à vous tous, ici aujourd'hui, afin que vous puissiez me demander des comptes, afin que vous puissiez vous associer avec compassion à l'œuvre de sanctification que Dieu est en train d'accomplir dans ma vie. Priez donc pour moi et poursuivons cette conversation les uns avec les autres. Que le Seigneur nous donne la grâce de mourir à nous-mêmes et à nos propres objectifs et de nous soumettre aux épreuves qu'il a orchestrées dans nos relations pour notre sanctification. Qu'il nous accorde la victoire pour persévérer dans l'amour. Que cet amour serve de témoignage pour attirer de nombreuses personnes dans son Église. Dans le verset 8 à 12, nous voyons comment Dieu en Christ a redéfini l'identité de son peuple. Nous voyons cette redéfinition dans la faute de l'alliance mosaïque et les meilleures promesses de la nouvelle alliance. Regardez avec moi le verset 8 et 9. Ici, nous voyons que la faute de l'alliance mosaïque était l'incapacité d'Israël à respecter ses conditions. C'est bien en effet sous la forme d'un reproche que Dieu dit, « Voici que le jour vienne, dit le Seigneur, où je conclurai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Le jour où je les ai pris par leurs mains pour les faire sortir du pays d'Égypte. Puisqu'eux-mêmes n'ont pas persévéré dans mon alliance, moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. L'alliance mosaïque était une relation entre Dieu et Israël, une relation basée sur les œuvres humaines. Si Israël obéissait à la loi de Dieu, Dieu le bénissait. Si Israël désobéissait à la loi de Dieu et ne se repentait pas, il se mettait sous la malédiction. Cette alliance a finalement conduit Dieu à juger Israël en l'exilant de la terre promise pour sa désobéissance. Pour mieux comprendre pourquoi Israël, c'est-à-dire, a désobéi, jetez un coup d'œil au chapitre 24 de Josué, au verset 14, 15 et 19. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Ôtez les dieux, conservez vos pères, et de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux. Que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays duquel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Continuons en verset 19. Josué dit au peuple, « Vous ne pourrez pas servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint. » C'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera pas vos crimes et vos péchés. L'alliance mosaïque était une relation entre Dieu et Israël, une relation basée sur les œuvres humaines. Si Israël obéissait à la loi de Dieu... J'étais en train de me répéter. Alors, ici, nous voyons les tribus rebelles d'Israël qui n'ont pas encore été conquises, pas encore apaisées par le Seigneur. Josué nous explique pourquoi ce peuple ne parviendra pas à respecter l'alliance mosaïque. Au verset 19, il dit qu'il est incapable de servir le Seigneur, incapable d'obéir. Israël n'a pas reçu un cœur capable d'obéir. Ils insistent auprès de Josué tout au long de ce passage sur le fait qu'ils seront fidèles à Dieu. Au lieu de confesser leur incapacité à observer la loi de Dieu, au lieu de se tourner vers lui en reconnaissant qu'ils ont besoin d'un cœur changé, converti, ils insistent avec arrogance sur le fait qu'ils peuvent le faire eux-mêmes. Noah, notre enfant de 2 ans, est arrivé à un stade où elle insiste pour tout faire elle-même. Cela fait partie de son développement et lui permet d'apprendre par la pratique. Chaque fois qu'elle voit un nouvel objet, elle doit jouer avec. Chaque fois qu'elle voit une nouvelle technique, elle doit l'imiter. Ce n'est qu'avec le temps et l'éducation qu'elle grandira et apprendra qu'elle est incapable de faire certaines choses elle-même. Elle doit apprendre ses limites, se rendre compte qu'elle ne peut pas accomplir certaines choses elle-même, et venir me voir, son père, pour me demander de faire pour elle ce dont était incapable. Peut-être de la même manière, Israël sous l'alliance mosaïque est comme ma fille Noah. Le peuple de Dieu avait besoin qu'on lui enseigne son incapacité à obéir, à accomplir son propre salut. Ils avaient besoin de la loi et du jugement du Seigneur lorsqu'ils ne faisaient pas tout cela pour qu'ils se rendent compte de la futilité de l'autosuffisance, pour qu'ils en finissent avec eux-mêmes et qu'ils cherchent le Christ, pour qu'ils cherchent Dieu le Père, pour qu'ils descendent vers eux et accomplissent leur salut. Comme Israël, vous efforcez-vous encore d'accomplir ce que Dieu seul peut faire, d'accomplir ce que le Christ a déjà fait pour son peuple. Que le Seigneur nous donne la grâce de ne pas compter sur nous-mêmes, mais de nous tourner vers le Christ dans chaque épreuve. Dans les versets 10 à 12 de chapitre 8, nous continuons à voir comment Dieu en Christ a redéfini l'identité de son peuple. Nous arrivons au cœur de cette redéfinition dans les meilleures promesses de la nouvelle alliance. Or, voici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur intelligence. Je les inscrirai aussi dans leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère, en disant « Connais le Seigneur ». En effet, tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, car je ne leur ferai grâce. Car je leur ferai grâce de leur injustice et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Les déclarations de la volonté de Dieu dans ces trois versets soulignent pour nous trois meilleures promesses de la nouvelle alliance présentées dans ces versets. La première promesse, au verset 10, est la réforme du cœur et de l'intelligence de ses membres. La deuxième promesse, qui commence à la fin du verset 10, s'étend jusqu'au verset 11, et la communion de ses membres avec Dieu. La troisième promesse, au verset 12, est la justification de ses membres devant Dieu. Regardons la promesse de réforme au verset 10. « Oh, voici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur intelligence. » Et je les inscrirai aussi dans leur cœur. Ce verset aborde ce que nous appelons la doctrine de la régénération. La régénération est un acte non pas de l'homme, mais de Dieu. C'est un acte de faire à nouveau chrétien. Dieu régénère le cœur de son peuple. Il nous change en réorientant nos désirs et nos affections vers son Fils, Jésus. Ainsi, il nous donne d'obéir avec amour à sa loi morale. C'est très différent de l'autosuffisance dans laquelle Israël a essayé d'obéir et n'a pas réussi à le faire. Regardez maintenant la promesse des communions qui commence vers la fin du verset 10 et se poursuit jusqu'au verset 11. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Personne n'enseignerait plus son citoyen, ni personne son frère, en disant « Connais le Seigneur ». En effet, tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Ces versets abordent ce que nous appelons la doctrine de la communion avec Dieu. En tant que chrétiens, nous avons maintenant une relation salvatrice avec Jésus. Nous le connaissons. Nous jouissons d'une intimité avec lui que nous n'avons jamais eue auparavant et dont le monde ne connaît pas. Remarquez au verset 11 le mot « tous » dans la phrase « tous me connaîtront » depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Le peuple de Dieu sous la nouvelle alliance est non mélangé. Ce qui le distingue de l'alliance mosaïque, l'implication ici est que tous les membres ethniques d'Israël ne connaissaient pas Dieu. Tous les membres de l'ethnie d'Israël n'étaient pas sauvés. Mais tous ceux qui sont en Christ sont sauvés. Il y a une intégrité, une pureté dans l'Église après le calvaire qu'Israël n'a jamais eue. Jésus souligne ce passage d'un peuple ethnique composé de croyants et non-croyants, et un peuple de Dieu intégral composé uniquement de croyants. Il le fait dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 10, versets 34 à 39. Nous y le voyons que nous avons entendu avant la prédication. Ce que Jésus ne fait pas ici, c'est nous appeler à des relations de haine au sein de nos familles. Jésus utilise une stratégie rhétorique. Il exagère son propos afin d'attirer l'attention sur lui. Ce qu'il veut dire, c'est que son peuple aura pour caractéristique son amour pour lui. Il s'agit d'un amour primordial pour le Christ qui surmonte le tribalisme, l'ancien ordre des choses qui s'opposerait à lui. En disant qu'il est venu apporter la paix, Jésus se compare au général d'Israël, Josué. Josué a conduit Israël par l'épée dans la terre promise pour prendre possession de son héritage et pour tracer des frontières géographiques claires entre le peuple de Dieu et les nations environnantes. Jésus dit qu'il conduit également le peuple de Dieu par l'épée dans l'héritage qui lui a été promis et qu'il tracera des frontières spirituelles entre l'Église et la famille. En traçant une ligne entre la famille et son Église, Jésus redéfinit le peuple de Dieu, qui passe d'un peuple ethnique et tribal à un peuple unifié par une profession commune, une foi partagée, et non un sang générationnel partagé. L'Église n'est plus un État-nation comme Israël, ni un peuple tribal dont les membres sont établis selon des critères ethniques. Regardez avec moi la dernière et meilleure promesse de la Nouvelle Alliance au verset 12 du chapitre 8 de l'Épître aux Hébreux, la promesse de la justification. Car je leur ferai grâce de leur injustice et je ne me souviendrai plus de leur péché. Comme les deux promesses précédentes, la justification est aussi un acte de Dieu. Dieu doit juger le mal et vaincre le péché. Il a satisfait aux justes exigences de sa loi sans détruire son peuple en faisant peser la peine de son péché sur Jésus à la croix. Par son obéissance parfaite à la place de l'Église, Jésus les justifie dans la salle d'audience céleste. Dieu le Père leur pardonne. Il ne se souviendra plus jamais de leurs péchés. Ainsi, si les meilleures promesses de la Nouvelle Alliance sont basées sur une profession commune, consciente, une foi partagée plutôt qu'un sang partagé, pourquoi certains encouragent-ils le baptême d'enfants? Je ne dis pas que nous devons, comme Amy Carmichael, nous éloigner de notre famille biologique et évangéliser au loin. Non! Nous devons nous rapprocher d'eux avec amour. Nous devons être les ambassadeurs auprès de notre famille de la grâce qui se trouve en Jésus seul. Si vous êtes ici aujourd'hui et que vous êtes chrétien, vous êtes un ambassadeur du ciel, engagé par l'Église locale, une ambassade du ciel pour proclamer la personne et l'œuvre du roi Jésus au monde. Ce monde comprend les membres non convertis de votre famille, qu'il s'agisse de vos enfants, de vos parents ou de vos frères et sœurs. Qu'il soit né dans une famille pratiquante ou dans une famille qui n'assiste pas régulièrement à l'Église, soyons clairs sur la ligne de démarcation entre le monde et l'Église, qui est formée des personnes en Christ, et ayons de la compassion pour ceux qui ne connaissent pas encore le Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez entendre d'autres prédications ou profiter de ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.